La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
C'est un conflit gelé depuis plus de 25 ans entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et pourtant des combats meurtriers y ont repris ce dimanche. La République autoproclamée du Haut-Karabakh refait parler d'elle, nous aurions pu prévoir cet embrasement.
Oui, nous aurions pu si nous avions lu les journaux des deux pays voisins du Caucase qui s'affrontent à nouveau depuis maintenant 3 jours pour donc le Haut-Karabakh. Ce n'est pas un reproche que je pourrais m'adresser à moi-même, mais un constat que l'on retrouve sur le précieux site spécialisé Eurasianet, un article de fond signé Joshua Kuchera, selon lequel, depuis le mois de juillet, pour qui prenait le temps de déceler les premiers symptômes, tout laissait présager qu'une offensive de l'Azerbaïdjan était inéluctable et qu'elle y au-delà des régulières passes d'armes qui secouent la région, mais s'apaisent aussi vite qu'elles ont commencé. Non, cette fois, comme le rappelle ce matin la BBC, il y a de quoi craindre une guerre d'une ampleur bien plus préoccupante. Avec cette centaine de morts déjà sous le déluge de bombes que l'armée azérie fait pleuvoir sur les villes de ces vallées peuplées majoritairement de familles d'ethnie arménienne, les combats sont féroces, plus seulement des démonstrations de force entre soldats à la frontière. Dans la petite ville de Stepanakert, qui sert de capitale à la région autoproclamé du Haut-Karabakh, les habitants se terrent dans les sous-sols pour tenter d'échapper au pilonnage. Voilà qui rappelle vraiment le conflit de 1994 quand les Arméniens, soutenus par la Russie, avaient obtenu le contrôle de facto de cette enclave en territoire azéri. On le comprend, pour revenir à la démonstration d'inéluctabilité tentée par Eurasianet, il y avait là tous les éléments pour qu'à un moment donné, le conflit s'embrase à nouveau. Il suffisait qu'une volonté politique de la part des pays impliqués se fasse jour, et en l'occurrence, l'Azerbaïdjan soutenu par son grand frère turc, décidément très entreprenant dans son étranger proche par les temps qui courent, n'a eu qu'à souffler un peu sur les braises mal éteintes du Haut-Karabakh pour faire repartir les flammes.
Et comme souvent, rien de mieux pour souffler sur les braises, comme vous dites, qu'une bonne campagne de propagande.
Et c'est bien ce que le pouvoir à Bakou a fait donc depuis juillet, et un premier regain de tension frontalière. Des obsèques en grande pompe réservées à un officier mort au combat, des manifestations de dizaines de milliers de personnes réclamant la guerre et la récupération par l'Azerbaïdjan des terres occupées par les séparatistes arméniens. Un gouvernement azéri un peu débordé par cette poussée ultranationaliste, mais qui s'y est rapidement, très rapidement converti. Ajouté à cela, selon Al Jazeera, cette fois, une intense campagne donc de désinformation qui culmine ces jours-ci avec des récits complètement invérifiables selon lesquels l'Arménie aurait fait venir au Haut-Karabakh des mercenaires issus des rangs des combattants kurdes du PKK en Turquie pour affronter justement les alliés turcs de l'Azerbaïdjan. Cette soi-disant information, rien d'étonnant, on la retrouve ce matin sur la première page du site d'info turc, le Daily Sabah, qui est un fidèle relais de la propagande d'Ankara, et il sert clairement de prétexte à la Turquie pour justifier de son ingérence dans le conflit caucasien. En face, il faut le dire aussi, on trouve ces mêmes histoires de mercenaires dans la presse arménienne. Des combattants djihadistes auraient été acheminés dans le Karabakh par les Turcs, affirme cette fois le journal grec Greek City Times, des combattants syriens notamment. La presse grecque, il faut le rappeler, n'est jamais à court en ce moment de choses à reprocher à la Turquie.
Alors précisons, Camille, que les deux belligérants rejettent ces histoires de mercenaires en les qualifiant de fake news, mais quelle que soit leur véracité, leur but est clair, justifier la reprise des hostilités dans les opinions publiques azéries et arméniennes.
Oui, on en est là à lire leurs journaux respectifs. On apprend que l'Azerbaïdjan vient de décréter la mobilisation partielle de sa population masculine et l'Arménie a interdit de quitter le territoire à tout homme de moins de 55 ans, donc en âge d'être mobilisé. Et ni Bakou ni Erevan ne semblent prêts pour le moment à négocier un arrêt des combats. C'est ce que constate le quotidien russe Izvestia. Le fil du dialogue diplomatique semble rompu et dans les rues de Moscou, il devient de plus en plus fréquent de voir des groupes d'Arméniens en venir aux mains face à des membres de la diaspora azérie qui est elle aussi très présente en Russie. Officiellement, Moscou appelle les deux parties au calme et joue le rôle de force d'interposition, mais en réalité, tout le monde sait que la Russie penche clairement du côté arménien dans ce conflit. On ne peut être sûr qu'elle ne laissera pas la Turquie remporter une victoire dans son précaré, le précaré russe du Caucase.
Et pendant ce temps, aux États-Unis, les avis d'imposition de Donald Trump sont publiés dans le New York Times. et révèle bien plus que les arrangements fiscaux du président.
Oui, en ce jour de premier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden, le New York Times va plus loin dans les révélations fracassantes qu'il a entamées ce dimanche. Après avoir épluché les déclarations de revenus de l'homme d'affaires devenu président, le quotidien en vient à démonter ce qu'il qualifie de canular Trump. Tout est dans le titre de l'article du jour. Ce n'est pas son succès dans les affaires qui a fait la gloire de Donald Trump, mais c'est la télé-réalité qui, en fait, lui a permis de bâtir cette légende du milliardaire à qui tout réussi, ce tycoon passé maître dans l'art du deal. À lire les documents fiscaux de Trump ces 10 dernières années, l'essentiel de ses revenus, soit 427 millions de dollars qui lui ont permis de rester à flot, il ne les doit pas à ses entreprises dans l'immobilier new-yorkais, mais bien aux émissions de télé-réalité qui l'ont remise en selle et où il a cultivé cette légende médiatique bidon, donc, nous dit-on dans le New York Times, qui allait le mener in fine à la Maison-Blanche. Ça a donc commencé avec l'émission The Apprentice, ça a continué avec des publicités pour des biscuits chocolatés ou des pizzas industrielles et de fil en aiguille, l'image savamment construite sur les écrans s'est imposée dans l'opinion américaine alors que pendant ce temps les affaires allaient au plus mal pour le businessman. Voilà qui nous en dit long sur la prépondérance du récit médiatique et de l'image dans ce qu'est devenu la démocratie américaine. Une réflexion aussi sur cette soi-disant réalité que nous vend la télé-réalité, sur la gloire qu'elle crée, unique richesse de ceux qui lui doivent tout, mais qui permet aujourd'hui d'accéder jusqu'au sommet. Donald Trump ne serait donc rien d'autre qu'un pionnier montrant la voie aux Paris Hilton et Kim Kardashian d'aujourd'hui. Vous allez voir que ça va leur donner des idées à ces deux-là pour 2024.